Bonjour à tous et merci d'avoir bravé l'effroi qui commence à être consistant en attendant demain avec la neige, donc c'est bien. Bon, est-ce qu'il y aurait des questions en suspens après les rois, les prophètes, les prêtres de la semaine dernière?
Normalement, on embraye sur la sagesse, là, non?
Oui, tout à fait. Je vais faire, lui dire quelques mots sur la sagesse, qui est quand même... Normalement, la sagesse n'est pas considérée comme une institution, ou comme une fonction, là, à la rigueur. Mais donc, c'est une réalité majeure dans l'Ancien Testament, comme on va le voir, et c'est pour ça qu'il faut quand même dire un mot, d'autant plus qu'il y a des répercussions importantes dans le Nouveau Testament. Bon. Pas de question. Bon, je vous rappelle une chose, c'est que vendredi prochain, on a cours. Donc c'est une semaine des souffrances. Enfin, bon. Alors, c'est donc effectivement un thème, un sujet qui n'est pas attendu normalement quand on étudie la Bible. Et je peux vous dire, par exemple, que dans les programmes des séminaires, etc., c'est le domaine qui restait toujours dans l'ombre, qu'on ne faisait jamais. On faisait la Torah, bien entendu, les prophètes, c'est plus peps. La sagesse, bon. Et pourtant, c'est quelque chose de tout à fait vital, vous allez voir. La réflexion sapientielle a été toujours présente, sous une forme ou une autre, dans l'Ancien Testament, enfin, dans l'histoire d'Israël. Cela ne pouvait pas être autrement pour une raison très simple. Parce que la sagesse s'occupe de tout ce qui touche l'homme. Quand je dis l'homme, je dis l'homme et la femme, bien sûr. La vie, la mort, le travail, la souffrance, le fric, riche, pauvre, homme, femme, parents et enfants, enfin, tout ce qui nous touche un jour ou l'autre en tant qu'êtres humains. La réflexion sapientielle est une réflexion de l'homme sur l'homme.
Sapientielle.
Comment ?
Vous avez dit sapientielle.
Sapientielle, oui. Des sagesses. Et le mot latin sapientia, on l'appelle les livres sapientiaux ou les livres de sagesse, ça. Il y a des dénominations variées. C'est comme le Beaujolais. Donc, une réflexion de l'homme sur l'homme, même bien que dans les anciens temps, cette réflexion ne pouvait pas éviter de donner une place à Dieu dans la réflexion sur l'homme. Je dis bien dans les temps anciens, parce que l'existence de Dieu et son rôle dans la vie de l'homme était une donnée incontournable. Mais c'était une réflexion dans laquelle donc prenait une place Dieu, mais à partir de l'expérience de l'homme sur Dieu. L'homme, par cette réflexion, tente de trouver son chemin, car la sagesse est l'art de réussir dans la vie. Ou, comme il a dit dans le livre des Proverbes, L'art de conduire son bateau à bon port. C'est cette image qui est utilisée dans les chapitres premiers du livre de Proverbes. À bon port, c'est-à-dire au bonheur. Non, mais vous voyez déjà la difficulté de cette affaire parce que les bons ports pour les uns sera Marseille, pour d'autres Barcelone, pour d'autres Anvers. Tout dépend de la définition de bonheur. Si la réflexion sapientielle a été toujours présente d'une manière ou d'une autre dans les textes bibliques et dans la réflexion d'Israël, cette réflexion va prendre une importance plus grande et plus explicite, une relevance particulière après l'exil, c'est-à-dire donc après, disons, 539, avant Jésus-Christ, après l'exil en Babylonie. Au moins, importance, au moins, par la publication d'œuvres de sagesse extrêmement célèbres, comme vous connaissez le livre de Job, même si vous n'avez pas lu en entier, ce qui est une entreprise risquée, parce que ça, si on le lit attentivement et doucement, calmement, ça déménage. Je vous préviens, ça déménage. Ou bien le livre de Proverbes, qui est un somnifère efficace. Sauf la première partie et la deuxième, qui est une réflexion. Mais le reste, c'est des collections de proverbes. Bon. Ou bien le livre de Coëlette, ou le livre de l'Ecclésiaste. Que vous connaissez, ne serait-ce par quelques formules qui sont devenues bien communes, rien de nouveau sous le soleil. Certaines formules, on ne les sort pas trop, parce que là, alors là, c'est l'antidote du somnifère. Mais c'est vraiment, c'est un livre particulièrement difficile. Par exemple, quand il dit « Je cherchais partout et je trouvais que plus amère que la mort, c'est la femme.
Ah, » oui.
Vous en vouliez oui. Voilà. Je vous garantis, vous commencez une célébration de mariage avec ces textes et le silence s'est fait instantanément. Ou bien, quand vous trouvez, je félicite le mort plus que le vivant. Et plus encore, ceux qui ne sont pas nés. Enfin, c'est l'autre texte célèbre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose. Ou bien quand il dit « Je hais la vie ». Alors, les biblistes, qui souvent sont des gens bien, j'essaye de sauver Coëlette, parce que ça ne peut pas être écrit dans la Bible. Comment est-ce qu'on entend ça? On l'entend à ça. À ce moment-là, on fait les tours du périphérique du foie pour essayer de trouver une issue favorable, une explication qui ne provoque pas les questionnements, mais c'est le livre de Coëlette. Vous le lisez et vous vous dites à chaque page, il a raison. Parce que c'est une réflexion lucide, mais absolument désenchantée de tout. Absolument de tout. On ne peut pas dire que... Après, on fait ce qu'on veut. Hein, et... Une fois qu'on dit qu'il a raison, est-ce qu'on on est obligatoirement forcé de rester à son niveau de réflexion où on peut dire « mais ». C'est ça le problème. Mais c'est une épreuve de lucidité indispensable pour tout croyant. Parce que sinon, voilà, on vous fait croire au Père Noël. C'est ça le problème. Autrement dit, c'est un vaccin des lucidités extraordinaires. Bon. Donc voilà des textes sapientiaux, des textes de sagesse extrêmement connus. Dans la Bible catholique, disons pour être simple, il y a deux autres livres encore. Un, le livre de Ben Sira, le sage, on appelle souvent le Siracide, qui est un livre très paradoxal parce qu'il y a des choses très très intéressantes et très belles, et d'autres, encore une fois, endormants. Par exemple, quand il dit ses idées, encore une fois, sur la femme, etc. Bon, et quand il dit... Les filles, quel souci pour le père. Quand ils sont petites, parce que ceci, c'est là. Ensuite, qu'elles restent intouchables et vierges, parce qu'il faut les marier comme il faut. Ensuite, quand on finit par les marier, bon, il faut trouver quand même... Enfin, mais que des soucis. Que des soucis. Mais il y a d'autres textes qui sont extrêmement... puissant. Ou bien vous avez aussi un autre texte qui est très célèbre, le livre de la sagesse de Salomon, qui de Salomon n'a rien, mais enfin bon. C'est un texte écrit en grec, c'est le plus récent de l'Ancien Testament, à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. Des très belles pages aussi. Et voilà, à force de réflexion, on arrive en Israël à un rapprochement de plus en plus grand entre la sagesse humaine et la sagesse divine. La différence de ces deux sagesses, c'est que l'initiative, le point de départ, la démarche, dans le cas de la sagesse humaine, c'est l'homme. C'est l'homme qui se pose des questions sur les affaires qui, comme je vous ai dit, touchent l'homme. La sagesse divine a comme origine Dieu, théoriquement. Elle n'est pas du tout le résultat, la sagesse divine, ce n'est pas le fruit de la volonté humaine. C'est une révélation. Ça, c'est passant comme une révélation. Alors, comment conjuguer les deux, la sagesse humaine et la sagesse divine ? C'est le problème. Et pourquoi faire ? Pourquoi conjuguer ces deux sagesses ? Certains... progressivement vont arriver à la conclusion qu'à la véritable sagesse est la sagesse divine. Celle donnée par Dieu. Et déjà dans les livres du Deutéronome, donc disons au VIe siècle, le dernier des livres de la Torah, dans le livre du Deutéronome, on arrive... à un rapprochement inattendu. Et on vous dit, pas aussi clairement que ça, mais enfin, presque, la sagesse, c'est la Torah de Moïse. Et cette identification, ou cette adéquation, va être faite de façon tout à fait explicite, justement, dans le livre du Siracide, au chapitre 24. Après avoir fait une description de l'origine de la sagesse, de ses caractéristiques, de ses fonctions, de ses grandeurs, tout ça, il dit tout ça. C'est la loi que Moïse donna à Israël comme héritage. Là, les jeux sont faits. Cette assimilation de la sagesse humaine à la sagesse divine vient d'un constat et d'une conviction. Constat d'échec de la quête humaine de sagesse qui mène à la vie et au bonheur. Et la conviction selon laquelle seule la révélation divine, concentrée, si l'on peut dire, dans la Torah, est les moyens pour trouver la vie. Ces constats, donc, et cette conviction est affirmée de façon assez nette, enfin, très nette, dans le livre, justement, de la sagesse de Salomon, une cinquantaine avant Jésus-Christ. Vous avez un texte très, 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 très beau, chapitre 9 du livre de la sagesse. Vous verrez un peu comment c'est conjugué, comment c'est présenté, cette sagesse divine, capable de, seule capable de donner la vie, etc. Pour ce qui est du rôle, ou si vous voulez, pour la question qui est la nôtre depuis quelques semaines, la révélation de Dieu, et du point de vue chrétien, il faut se rappeler le prologue du quatrième évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, etc., etc. Ce texte a une structure, si vous voulez, et un déroulement qui coïncide avec le déroulement de l'origine et du parcours de la sagesse dans le livre, justement, du Siracide, chapitre 24. Ou également aussi dans d'autres textes tardifs de l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que l'évangile de Jean s'est inspiré de la figure de la sagesse dans l'Ancien Testament et du rôle que la sagesse jouait dans ces vieux textes pour dire Jésus-Christ. Et donnant à penser et à croire que la sagesse, c'est Jésus-Christ. Et non plus la Torah, comme il a dit explicitement dans le prologue du quatrième évangile. La loi nous fut donnée par Moïse, la loi et la grâce par Jésus-Christ. Et vous avez aussi dans Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, les chapitres 2 et 3, qui sont une sorte de tricotage, justement, c'est cette question de sagesse humaine et divine. On le sait quand même, tout ce qu'il raconte, Paul, sur la sagesse humaine, la sagesse divine, ce qui était folie pour les hommes a été considéré par Dieu comme sagesse, ce qui était considéré comme sagesse par les hommes a été considéré folie par Dieu. Et la sagesse de Dieu C'est la croix. La sagesse de Dieu s'est manifestée, Jésus, en croix. La sagesse de Dieu, donc, Jésus crucifié. Alors, je vous laisse deviner que comme sagesse pour triompher dans la vie, pour réussir sa vie, c'est une proposition un peu osée, disons. Vous dites à quelqu'un, mais tu veux réussir dans la vie, ben, je la formule parfaite, la croix de Jésus-Christ. Il faut passer par la croix. Attends, mais ça va pas. C'est le renversement total de valeur de la sagesse humaine. C'est pour ça qu'il dit Paul, ce qui était folie pour les hommes, on peut dire ce qui était folie du point de vue de la sagesse humaine, ça, c'est devenu pour Dieu la sagesse. Le chemin du bonheur, c'est la croix. On ne peut pas dire, mais la surprise est quand même assez rude. Et on peut lui demander, c'est ça la révélation ? Tout à fait, parfaitement. Pour ceux qui étaient ou pour ceux qui sont à la recherche de la sagesse, je peux vous dire que la douche est plus que froide. Elle est glaciale. Voilà. Est-ce que sur cette question de la sagesse, vous avez... Le livre de Job, par exemple. On a une image de Job, la patience de Job. Enfin, oui, la patience de Job dans les deux premiers chapitres. Mais il y en a 42 chapitres. Et la suite, c'est la plus grande collection que j'ai jamais vue des blasphèmes.
Il se révolte.
Comment ?
Il se révolte.
Il révolte et des... il traite Dieu de tous les noms, des pervers. Là, il fait des images de Dieu comme un Dieu pervers. Il dit, oui, je sais bien pourquoi est-ce que tu m'as créé. Vraiment, vous lisez le psaume 8. Alors, tu as fait l'homme à peine plus, à peine inférieur à Dieu, etc. etc. Quelle merveille, magnifique, etc. Puis Job dit, oui, je vois pourquoi tu m'as créé. Parce que tu voulais avoir un objet pour exercer ton sadisme, c'est pour ça, pour me massacrer, pour me piétiner, etc., que tu m'as créé. Merci. Mais je me souviens très bien, il y a à peu près 20 ans, il y a une jeune femme qui était très jolie d'ailleurs, très très jolie, et qui avait eu un parcours un peu... chaotique, et il avait fini par mourir, je ne sais plus, cet incident, quoi. Enfin, vraiment, en plus, à des milliers de kilomètres de ses parents, etc. Bon. Il m'avait donné cette tâche de présider l'Eucharistie de ses obsèques et de choisir des textes. Enfin, qu'est-ce qu'on a... Et vous avez choisi le chapitre 3 du livre de Job comme premier texte. Où Job, pas une demi-phrase, mais un chapitre, presque 25 versets, maudit les jours où il est né. Un luxe de détails particulièrement long. Et après, il y avait eu des gens, effectivement, qui étaient un peu choqués parce qu'on avait lu ces textes. Écoutez, mais encore une fois, on ne peut pas nier la réalité. Bon, je vais avoir cette semaine encore des obsèques d'une jeune femme à peu près du même âge, qui s'est jetée par la fenêtre. D'innocence. Parce que pour ces personnes, la vie n'a pas de sens. Les titres d'ailleurs d'un livre que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans, sur Coëlette, sur l'Ecclésiaste, du non-sens. La phrase qui revient très souvent dans Coëlette, c'est pas vanité des vanités, etc. On sait quoi dans un cocktail mondain, vanité des vanités. Non, c'est non-sens des non-sens. Il n'y a pas de sens. Alors, c'est par rapport à ça qu'il faut... Et le Job est vraiment extrêmement... n'a pas de justice. Vaut mieux être un arbre qu'un homme. Parce que l'arbre, même s'il est sec et mort depuis des années, dès qu'il sent un peu... l'eau, il raverdit. Avec l'homme, c'est fini. Et vraiment fini. Donc, conclusion, vaut mieux être arbre qu'homme. Enfin, bref. Bon. Pour la sagesse, donc, vous avez des quoi à lire. Et je passe au cinquième cours, qui est donc... Jésus-Christ, médiateur et plénitude de la révélation. Premier point, la résurrection au cœur de la foi chrétienne. Cette expression, Jésus-Christ, médiateur et plénitude de la révélation, cette phrase a été mise en... avant, si vous voulez, ou valorisé par le Concile Vatican II. En Belgique, qui sont experts en période interminable sans gouvernement, c'est qu'on fait, qu'on arrive à se poser la question, à quoi sert le gouvernement ? Parce qu'il passe une année sans, et puis tout roule. Bon, bref. Ils sont experts aussi, ils nomment dans ces longues périodes d'attente un facilitateur. Un facilitateur. On pourrait dire un intermédiaire. Un médiateur. Un pont. C'est-à-dire, c'est qu'il met en relation deux personnes, deux rives, deux entités. C'est lui qui permet le passage ou la rencontre. Le passage ou la rencontre. On peut penser à l'expression archi-connue du quatrième évangile où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, effectivement, c'est ce qui permet de relier deux points. Ou bien, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 5, un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu, l'homme Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, le terme médiateur n'est pas utilisé. Mais tous les textes, ces longs textes, est bâti sur le Christ comme véritable et unique intermédiaire, médiateur entre Dieu et les âmes. Le seul qui a réussi cette médiation, une fois pour toutes. En disant aussi que Jésus est l'accomplissement de la révélation, on pense à un autre texte, à une autre phrase de cet épître aux Hébreux. Je lis au chapitre 12, verset 2. Les regards fixés sur celui qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à son accomplissement, Jésus. Autrement dit, accomplissement de la foi et plénitude de la foi. Deux manières de dire la même chose, si vous voulez. Ce qui veut dire que Jésus est lui-même la révélation. On a déjà dit, ou en tout cas insinué, que pour les chrétiens, la révélation, c'est d'abord et foncièrement une personne, quelqu'un. Ce n'est pas un message. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose de notionnel, d'intellectuel à comprendre ou à savoir. Ce qui n'empêche pas, effectivement, que la révélation aura à un moment des éléments ou de conséquences qui relèvent de la raison et de la connaissance. Mais la révélation est une personne. En disant cela, que pour les chrétiens aujourd'hui, c'est une personne, ça veut dire que cette personne est vivante. C'est quelque chose de vivant aujourd'hui. La révélation chrétienne est une personne vivante aujourd'hui. Ce qui veut dire, ce qui signifie que la révélation chrétienne n'est pas une doctrine. Et encore moins, un système de pensée. Ce n'est pas une collection de vérités dont Dieu aurait parsemé l'écriture et que nous devons désenterrer de l'écriture, enlever la gangue qui entoure ces vérités comme l'amande entourée des chocolats. Ce n'est pas non plus un livre, comme c'est le cas dans l'islam, par exemple. La Bible, en effet, est un témoignage sur la révélation qui est Jésus-Christ. Même l'Ancien Testament. On verra comment et pourquoi. Le livre est second par rapport à la personne. Ce qui ne veut pas dire que ce soit secondaire. La Bible est le chemin privilégié, mais pas le seul, pour avoir accès à la révélation qui est Jésus-Christ. La révélation chrétienne n'est pas une expérience religieuse, comme on peut être, par exemple, la contemplation de la nature, vous avez par exemple la quantité d'images pieuses, des soleils couchants, des soleils levants, du ciel étoilé, la mer, tout, enfin, bon, ça va très bien, c'est très bien, mais enfin, c'est pas la révélation chrétienne. Ce n'est pas non plus un sentiment d'une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment dire maintenant, un ressenti. Tout en ajoutant qu'effectivement, dans la relation du croyant à la révélation, à Jésus-Christ, l'expérience de cette relation avec Jésus-Christ est une réalité et compte énormément. Elle est même fondamentale. Ainsi que l'intégration de cette expérience dans les moulinages intellectuels, etc., etc. Ça, c'est ça. Mais ce n'est pas ça le noyau dur de la révélation. La foi chrétienne commence avec Jésus-Christ. Et comme je disais à l'instant, l'Ancien Testament est le chemin, le parcours qui aboutit en Jésus-Christ. En continuité donc avec l'Ancien Testament, mais en rupture aussi radicale avec l'Ancien Testament. C'est en continuité, mais en même temps, rupture. C'est pourquoi, du point de vue théologique, le chrétien, d'une manière certaine et d'une certaine manière, les deux, le chrétien est un juif. Je ne sais pas si vous ai raconté cette anecdote qui montre un peu le schéma qu'on traîne encore, etc. Bon, il y avait celui qui est actuellement évêque auxiliaire de Pontier à Marseille. Et bon, c'est un type qui a énormément travaillé dans le dialogue interreligieux, bon, surtout avec l'islam, mais aussi avec le judaïsme, etc. Et, une fois, il avait fait toute une intervention, une conférence sur l'interreligieux, la relation. Là, c'était plus particulièrement avec les juifs, etc. Et à la fin, il y a des questions, etc. Il y a quelqu'un de la salle qui dit, écoutez, bon, d'accord, Jésus était juif, mais pas Marie. Et je me souviens très bien, ici par exemple, quand Lustiger avait été nommé archevêque de Paris, j'étais chez des gens que je connais très bien, il y avait la belle-mère qui était là, qui était de Lyon, de famille lyonnaise typique, etc. Elle dit, mais enfin, quand même, n'y avait-il pas rien d'autre en France pour nommer comme archevêque de Paris, un juif polonais? Non, mais, bon, mais ça c'était... Et je pense que ce que cette dame a dit avait été pensé par beaucoup de monde. Ça, c'est... Bon, enfin. Pie XI, le pape Pie XI, en 1938... Dans une encyclique célèbre, en 38, il avait dit « Les chrétiens, nous sommes tous des juifs spirituels. » Dire ça à cette époque, c'était particulièrement courageux et en même temps avoir une clairvoyance de la chose. C'est pour ça que je dis bien, d'une certaine manière, et d'une manière certaine, nous sommes juifs. Bon. Deuxième point, la résurrection au cœur de la foi chrétienne. Jésus est une... Je ne sais pas où j'en suis. Voilà, c'est la question de la médiation. Est-ce que je voulais dire ? Jésus est une figure historique, comme Jules César, Néron, Aristote, etc. Personne ayant un minimum de cohérence rationnelle et scientifique dans sa démarche, croyant ou pas, ne peut pas nier aujourd'hui l'historicité de Jésus de Nazareth. Ayant un minimum de connaissances et de cohérences rationnelles. Et quand ils le font, quand il y a qui le font, par exemple, je vous ai déjà dit il y a un mois, on ferait par exemple, c'est une question d'ignorance et de mauvaise foi. Ça fait vendre. C'est une question d'ignorance parce que là, il sort de ces énormités que un membre du CP ne sort pas, quoi. Enfin, voilà. Mais en même temps, ça montre qu'il est... Bon, je pense qu'il est peut-être fou, mais pas con. Là, il y a une dose de mauvaise foi évidente. Bon, donc aujourd'hui, si vous croyez, tant mieux pour vous, mais sinon, c'est pareil. C'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns qui gardent les logiciels du 19e siècle, avec la crise historique, etc. Je me souviens qu'il y avait une revue un peu confidentielle d'une association française à laquelle on était abonné dans la bibliothèque dont je m'occupe. Et à chaque fois, je regardais un peu, de temps en temps, je lisais le truc, mais c'était des gens qui fonctionnaient avec les logiciels du 19e siècle. Ils n'étaient pas au courant de tout ce qu'on avait publié dans le 20e, et Dieu sait si on l'a produit. Bon, du coup, j'arrêtais la souscription. On ne va pas continuer avec donner des sous, même si ce n'est pas sûr, mais enfin quand même, les temps ne sont propices à jeter le fric par la fenêtre.
S'il vous plaît, vous parlez de qui quand vous dites ça,
parce que comment ?
Vous parlez de qui ?
Je parle d'une association française qui avait... du genre les amis de Renan, par exemple. Oui, je ne me souviens pas si c'était ça, mais c'était du même genre. Les amis de Renan, bon, une association, comme il y a 36 000, hein. Les amis de Tila Sardin, les amis de ceci, de cela, etc. Bon. Et c'était des gens qui continuent encore à fonctionner et à se poser les mêmes questions de la même façon qu'il y a un siècle et demi. C'est ça qui était... En disant que Jésus est la révélation de Dieu, on entre dans ce autre terrain qui n'est pas celui de la rationalité. Pour dire cela, pour affirmer que Jésus est la révélation de Dieu, on entre dans le domaine de la foi, qui n'est pas irrationnel à 100%, mais qui a une partie, effectivement, qui ne relève pas de la rationalité, mais de la conviction et de l'adhésion. De la même façon que l'affirmation de l'existence historique de Jésus ne relève pas du domaine de la foi, celle de sa nature, Jésus comme révélation de Dieu, relève de la foi. Les touches, et après, voir comment on articule les deux, chacun dans notre tête. Cette dimension de la foi se renforce encore, ou se corse encore, quand on affirme que Jésus est ressuscité. Et cette affirmation renvoie évidemment au Nouveau Testament, dont les livres constituent chacun à sa façon des témoignages des premiers disciples, des premières personnes qui ont cru en lui, l'ont suivi et ont fait œuvre des témoignages de Jésus mort et ressuscité, les deux. Il faut réaliser quelque chose quand même de relativement important. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il faut attendre la fin de l'Ancien Testament pour que la croyance dans la résurrection apparaisse. C'est-à-dire la croyance dans une vie de l'intégralité de la personne, corps et âme, ou corps et esprit, si vous voulez, au-delà de la mort. Ce retard dans l'acceptation ou dans la croyance, dans la résurrection corporelle des hommes, est d'autant plus surprenant qu'en Égypte, cette croyance constituait un des piliers essentiels de la civilisation et de la religion égyptienne, et qu'Israël avait pompé des tas de choses. Là, par exemple, dans le livre des Proverbes, deux chapitres complets du livre des Proverbes qui sont pompés d'une œuvre des sagesses, d'ailleurs, égyptienne, des années 1400. Mais la question de la résurrection, n'a pas du tout contaminé, si l'on peut dire, Israël.
Parce qu'en Égypte, ils y croyaient.
Comment ? Ah, si, en Égypte, la religion égyptienne, et donc toute la civilisation égyptienne, un des piliers essentiels, c'était la vie au-delà.
Il n'y avait pas plusieurs dieux.
J'entends pas.
Il n'y avait quand même pas plusieurs dieux pour la religion égyptienne.
Il y avait quoi ?
Plusieurs dieux.
Ah oui, non, mais ça c'est tout à fait évident. Il y avait, en Égypte, c'était du polythéisme. On est d'accord, mais sur cette base ou dans ce cadre d'une religion polythéiste, la croyance dans la résurrection corporelle était majeure. Bon. Si vous y êtes allé, maintenant par exemple, qu'est-ce qu'on voit comme reste ? Des temples et des tombes, pas des palais, ou très très peu. Des temples et des tombes. Que ce soit
des tombeaux.
Ou de tombeaux, que ce soit les pyramides ou bien dans des autres lieux comme Luxor, etc. Ce qu'on vous montre, c'est ça. Et on vous montre ça parce qu'il n'y a Des palais, il y en a un, mais bon, un qui est très, très important, mais c'est un palais très important qui a été un pharaon, disons, schismatique, qui a régné pendant 20 ans, je ne sais pas quoi. Une fois qu'il est mort, on a abandonné la capitale, le palais, tout le reste. C'est pour ça qu'on l'a conservé. Tandis que les temples et les tombeaux, ils sont là. Cependant, il faut quand même faire la différence entre résurrection et immortalité. Parce que là aussi, on fait une salade niçoise, pleine d'olives noires, vertes. Dans le monde grec, la croyance dans l'immortalité était acquise et bien assumée à l'époque de Jésus. Là, vous pouvez voir dans toutes les œuvres, même dans le théâtre, etc., etc. En revanche, les Grecs ne croyaient pas du tout à la résurrection corporelle. Souvenez-vous de l'épisode du livre des Actes où Paul va à Athènes et il annonce à l'Areopage, il annonce les dieux inconnus, parce que les Grecs, au cas où, ont mis des hôtels pour tous les dieux connus, il a mis un hôtel célèbre au dieu inconnu. Il faut quand même être prévoyant. Et Paul explique, fait son discours, il vient parler de ces dieux inconnus. Bon, ils sont très intéressés, sauf qu'au moment où Paul commence à dire « Oh, les dieux inconnus, c'est Jésus mort et ressuscité. » Oh là, on verra ça la semaine prochaine, éventuellement. Et il les laisse tomber, et puis voilà. Parce que pour les Grecs, la résurrection corporelle n'était pas du tout à l'ordre du jour. La première attestation de la croyance à la résurrection corporelle dans la Bible est le texte que vous avez dû entendre hier. Si vous êtes allé à la messe, sinon vous avez pu le lire. Du livre de Daniel. C'est le chapitre 12, versets 2 à 13. C'est un livre dont on peut dire même qu'il a été écrit avant décembre 164. Donc, en l'an 164 avant Jésus-Christ, mais avant décembre, parce qu'il y a une... Il y a un événement dont il parle de façon très générique, la mort d'Antiochus IV, et il est mort en 164. Et s'il avait connu cette bonne nouvelle, il aurait fait une mention d'une façon ou d'une autre, mais claire. Et là, pour l'instant, il reste une sorte de prédiction de la mort du tyran. Mais... Donc... C'est quand même très tardif. Et vers les ans 150, il y a les livres qu'on appelle maintenant, de façon un peu ironique, les livres des martyrs d'Israël. Et là, on a changé aussi les noms de ces livres, parce que c'est un livre qu'on lit généralement dans les obsèques. Et habituellement, les noms de ces livres, c'est les livres de Maccabée. Alors vous voyez un peu... lors de la célébration, quelqu'un qui sort et qui... Lecture du livre des Maccabées. Du coup, on a changé les noms. Livre des martyrs d'Israël. Et donc là, il y a un discours très célèbre où il y a la mère avec ses 7 enfants, qui ont été tous pris par la police du roi et qui vont être trucidés les uns après les autres. Comme ça, ça, le plaisir dure plus longtemps. Et la mère fait tout un discours au roi, qui le traite de tous les noms. Mais dans ce discours, elle explique et explicite la croyance dans la résurrection corporelle. Tu peux nous torturer à mort, etc., nous démembrer, comme les célèbres journalistes saoudiens, tout ce que tu veux, mais on s'en fout. Parce que notre Dieu va nous rendre la vie dans notre corps. Donc, ça c'est. C'est dans le deuxième livre de Maccabée, chapitre 7. Je termine avec un petit paragraphe juste avant la pause. À l'époque de Jésus, les Juifs étaient partagés sur cette question. Les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres, qui appartenaient donc à cette partie des Sadducéens, avec le grand propriétaire terrien, ces parties-là ne croyaient pas à la résurrection. Parce que pour eux, seulement comptait la Torah. Et dans la Torah, évidemment, il n'y a pas de trace de résurrection. Les pharisiens et les gens de Qumran croyaient à la résurrection. Et vous voyez la célèbre scène des Sadducéens qui pose à Jésus la question célèbre, la femme qui avait été mariée avec quelqu'un, et donc en fonction de la loi du Lévira, si le mari meurt sans enfant, c'est le deuxième frère, etc. Mais là, les sept, bah, ça prend un peu de temps, mais bon, ils sont morts tous les sept. Et la question, c'est à la résurrection, s'il y a résurrection des corps, il sera la femme de qui ? Tant donné qu'il a été la femme des sept, alors Jésus, vous êtes des nuls. Et là, il ne répond pas comme d'autres fois, ou donne l'impression de répondre par une pirouette. Mais là, non. Là, c'est un argument extrêmement bon. Il dit, on nous dit dans la Bible et dans la Torah, justement, on nous parle des les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu est un dieu de vivants, pas de morts. Donc là, c'est un argument tout à fait pertinent. Ceci dit, pour les pharisiens et les gens de Qumran qui croyaient à la résurrection, je ne vous dis pas les variantes qu'il y avait après. Parce qu'une fois qu'on a dit que la résurrection, après on se pose des questions sans fin. Et les gens qui sont déjà morts il y a très longtemps, ils sont où ? Ils font quoi ? Ils jouent aux cartes ou ils jouent au ping-pong ? Et les âmes qui attendent la résurrection des morts, elles sont où ? Il y avait des explications archi variées. Et je me souviens très bien que ces mécanismes du comment était tout à fait présent et encore présent dans plein de têtes. Je me souviens, il y a quelques années, je suis allé chez moi, je suis allé voir ma tante, qui était ma marraine, parce que bon, je l'ai enterrée au mois d'août, mais elle a quand même 98 ans. Et elle profitait, quand j'allais, à me poser des questions, enfin, pour me poser des questions difficiles. Et là, on était tous les deux dans le salon, etc. Il me dit, bon, voilà, dis-moi, est-ce que c'est vrai ce que nous a dit dans le catéchisme ? Qu'est-ce que nous a dit le catéchisme ? C'est vrai, c'était une phrase qu'on disait, nous allons ressusciter avec les mêmes corps et les mêmes âmes que nous avons eues. Alors il dit, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, il devait avoir à l'époque 90 ans à peu près, il était à ma gauche, et en face, j'avais une photo d'elle quand elle avait 25 ans à peu près. Lui, qu'est-ce que tu préfères? Ressusciter avec les corps que tu as maintenant ou avec les corps que tu avais là? T'as dit ces questions, je dis, que ces questions, mais c'est une question. Je lui dis, écoute, il faut que c'est. Tania. Tenir au quoi et au pourquoi. Et le quoi, c'est il y a une vie après la mort qui n'est pas un fantôme, c'est une vie avec. Nous sommes des terriens pour avec ça. Le pourquoi, ben, parce que Dieu nous promet une vie après la mort. Et parce que Dieu nous aime, etc. Alors, le comment? Ne t'inquiète pas, pas de problème. On peut raconter du tas de blagues qu'on circule sur après la mort, etc. Mais il faut pas se torturer la tête sur les comment. C'est exactement comme la question du créationnisme. La Bible ne fait pas une description de ce qui a été fait. La création, d'ailleurs, il y a deux récits très différents, donc on se calme. Mais ce qui compte, c'est l'affirmation du quoi? Dieu est à l'origine, Dieu est la source de tout ce qui existe. Pourquoi? Parce qu'il, comme dit l'autre, il n'aime pas être seul. Ça, ça comprend. Bon. Les comment? En 6 jours, un jour de 24 heures, ou de je ne sais pas combien, ça, on s'en fout. Ce sont des textes qui disent certains aspects de la création. Mais il ne faut pas se focaliser sur la matérialité du comment. Voilà. Et là, pour la question de la résurrection, c'est exactement la même histoire.
Sauf que, sauf que la création, on peut voir, elle amenait, hein, mais le après, personne, même les plus érudits, savent.
Ah, ben ça, c'est tout à fait évident.
Donc on ne peut que imaginer.
Oui, non, mais de la même façon, vous dites qu'on voit, etc., pour la création, mais vous voyez pas Dieu avec les mains pleines de glaise. Pas encore. Donc là aussi, ça relève de la foi dans le sens que vous dites quoi c'est ça et pourquoi c'est ça, mais qui? Ben, vous dites Dieu, et d'autres disent non, c'est les hasards, je ne sais pas tout quoi. Même là aussi, c'est une question de foi qui ne relève pas de la rationalité. Mais pour la question de la résurrection, c'est évident, personne n'en est revenu. Même si on peut avoir parfois des rêves ou des cauchemars. Je ne sais pas. Bon, je m'arrête parce que Anne est en train de surveiller et je la crains.